Vous écoutez RTL.
Très bonne journée à tous, RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Phil Collins, le retour. 5 ans après avoir annoncé sa retraite, la superstar publie non seulement son autobiographie, mais il s'apprête à remonter sur scène. Confidence au micro de Steven Bellery. 12 disques et 12 interprètes en compétition pour la 11e édition de l'album RTL de l'année. Anthony Martin va nous dévoiler la liste, fin du suspense dans une dizaine de minutes. Elle est l'une des grandes romancières américaines. Joyce Maynard publie Les règles d'usage, un bouleversant roman inspiré par les attentats du 11 septembre. Rencontre avec Bernard Lehu dans quelques instants. Et puis à la télévision ce soir, 2 enquêtes médicales édifiantes, les abus d'antibiotiques sur la 5 et le grand bluff du cholestérol sur Arte.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Musique pour commencer. 5 ans après avoir annoncé sa retraite, Phil Collins est donc de retour. La superstar l'a annoncé hier. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez à Londres pour RTL et vous avez longuement rencontré le chanteur qui s'apprête donc à remonter sur scène.
Oui, on savait que ça le titillait. Hein. Il nous l'avait dit en janvier dernier déjà sur RTL alors qu'il lançait une campagne de réédition de tous ses albums solo. Cette fois, c'est officiel. Phil Collins se produira à Paris-Bercy les 18 et 19 juin prochains. Au moins 2 concerts qui marqueront ses retrouvailles avec le public français. 13 ans après son dernier spectacle parisien.
J'ai fait quelques petits concerts cette année, un à Miami, 2 en Suisse, 1 à l'US Open, et les gens venaient me voir pour me dire « Tu nous manques, reviens, fais quelque chose !» Cette fois, ça m'a paru facile de dire « Oui, ok, ça va être sympa, intime. Ce sera un concert best-of car je n'ai pas encore de nouvelles chansons. » Mais je promets qu'il n'y aura pas que des tubes, il y aura des choses très différentes. Pour le moment, on a 1 semaine de réservée en France, 1 en Angleterre, 1 en Allemagne. Je n'ai aucune envie de repartir en tournée mondiale comme dans le passé. C'est beaucoup trop. Mon fils jouera avec moi, Nicolas. Ça sera le seul batteur sur scène. L'idée me terrifie, je lui en ai parlé longuement, il est très confiant. À l'US Open, il y avait 20 000 personnes. Ça ne l'embêtait pas, il était bon, pas stressé. Vous savez, quand vous adorez jouer, vous savez ce que vous avez à faire.
Prévente des places dès demain et mise en vente générale ce vendredi.
Rendez-vous est pris. Hein. Alors mercredi, veille de sortie de Not Dead Yet, la première autobiographie de Phil Collins, un livre qui sort chez Michel Lafond. 420 pages très intimes, Steven.
Ouais, l'anglais raconte tout sans exception. Cette autobio est moins musicale que celle de Bruce Springsteen, mais bien plus riche en confidences. Je m'appelle Phil Collins, je suis batteur et je sais que je ne suis pas indestructible, écrit la star en préambule. Né en 1951 d'un père assureur et d'une mère salariée d'une agence artistique, Phil Collins grandit au bout de la ligne Piccadilly. C'est Londres tout en étant la banlieue, ni vraiment l'une ni vraiment l'autre, raconte le chanteur, qui découvre la musique un soir de Noël où on lui offre sa première batterie.
Je crois encore au Père Noël. On m'a offert ma première batterie à mon 3e Noël, donc je n'ai pas cessé de jouer. J'ai cogné. À 5 ans, mon oncle m'a bricolé une autre batterie. À 12, j'ai eu une vraie Stratford. Je n'ai pas pris de cours de batterie pour apprendre à jouer de l'instrument, mais quelques heures pour savoir lire la musique. J'aurais dû en faire plus, car j'ignore toujours comment lire une partition aujourd'hui. Si tu ne connais pas les règles, tu ne sais pas quand tu les enfreins. Quand tu fais une chanson, tu fais juste ce que tu envie de faire. Je crois que ne pas connaître les règles m'a aidé.
Phil Collins joue devant la télé, s'amuse à ponctuer les sketchs des humoristes. Il vendra en cachette le train électrique de son frère pour s'acheter sa première vraie batterie. Le musicien écrit « Avant même ma 13e année, je suis sûr d'y avoir consacré 10 000 heures. »
Et puis vont venir les premiers jobs et Phil Collins raconte bien sûr ses débuts, Steven.
Oui, un premier groupe à 15 ans avec un copain de quartier, puis un rôle dans Oliver, comédie musicale à West End. Il en sera viré après 7 mois de représentation car il mue sur scène en direct un soir, c'est décidé. Il deviendra batteur, le gamin passe le balai au Marquis, célèbre salle de concert pour y entrer gratis. Il est embauché pour jouer sur une chanson du premier album solo de George Harrison. Il touchera un chèque de 15 livres mais ne sera pas crédité. Le même été 1970, Phil Collins tombe sur une petite annonce. Un groupe cherche un batteur, ce groupe s'appelle Genesis.
J'avais déjà fait beaucoup d'auditions, mais cette fois la musique était plus intéressante que pour les précédentes. En partant, je ne savais pas si j'avais le boulot. Un jour, le 8 août 70, Peter Gabriel m'a téléphoné et m'a dit « Tu as le job ». Après, ça a été beaucoup d'amusement, de nombreux concerts, de bons amis et au final, je suis devant vous. Les gens adorent les gros titres. Moi, prenant la suite de Peter dans le groupe, c'est devenu « Je l'ai dégagé ». Mais je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu devenir chanteur. Je voulais rester à la batterie. Donc, avec Peter, on ne se voit pas beaucoup, mais nous sommes de très bons amis. Je l'aime beaucoup, j'aime sa musique.
Phil Collins met les points sur les i. Hein. Il raconte pendant de longues pages l'épopée de Genesis, cette date du 22 mai 1975, à Besançon, en France, où Peter Gabriel quitte la bande. Plutôt jouer dans un groupe instrumental que prendre le micro, écrit Phil Collins, qui raconte avoir auditionné plus de 30 chanteurs. Finalement, il fait un test en studio et devient le leader. Il a cette phrase sur son groupe. On était des garçons sérieux, parfois à l'excès, anglais, intello et complaisants à l'occasion. Genesis enchaîne les tubes, les stades. Chacun des membres démarre une carrière solo. Celle de Phil Collins va exploser.
Et le chanteur ne vit pas si bien ce succès, Steven.
100 millions d'albums vendus avec Genesis, 100 millions en solo. Collins raconte « Enfermé dans l'œil du cyclone, je me fichais pas mal de ma place dans les classements. Je courais pour ne pas tomber. » Il conclut « Durant près de 4 décennies de tournées incessantes, je n'ai fait qu'alimenter une fiction en pensant que j'étais capable de concilier une vie familiale stable et une carrière musicale. » C'est son pire échec, sa vie personnelle. 3 femmes, 3 divorces et 47 millions d'euros de prestations compensatoires.
Ma vie amoureuse a été plus ou moins un bordel. J'ai essayé de la rendre moins en désordre possible pour le bien de mes enfants. Le problème, c'est que tout a été monté en épingle par la presse. Et ça m'a fait passer pour un mec peut-être un peu con. Quand tout le monde est au courant de ce que vous traversez sans en comprendre les raisons, ça devient Phil Collins s'est marié, Phil Collins divorce, Phil Collins s'est remarié, Phil Collins divorce par fax, Phil Collins se remet avec sa 3e femme. On m'a pris pour un putain d'abruti. Et je ne suis pas un idiot, je suis très romantique et c'est peut-être ça mon problème.
En 2011, Phil Collins annonce qu'il prend sa retraite. C'est le début d'une longue période cauchemardesque pour l'artiste.
Je ne suis pas devenu un alcoolique, j'ai beaucoup trop bu. Je crois qu'il y a une différence. Je venais de prendre ma retraite de la musique et mon mariage s'est terminé. Je n'ai plus ni famille, ni foyer. J'ai eu pour la première fois trop de temps à tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis servi un verre. Il y a des personnes qui s'approchent du bord de la falaise et qui sautent pour voir jusqu'où elles peuvent tomber. Moi, je vais jusqu'au rebord et je fais demi-tour. J'ai voulu être honnête et le raconter parce que c'est une autobiographie, c'est un livre sur ma vie. Si je ne racontais que des bouts de ma vie, ça n'avait pas grand intérêt.
J'ai failli en mourir, écrit Phil Collins. Les problèmes s'enchaînent pour lui à cause d'une infection. Il devient sourd à 50% de l'oreille gauche. Il se fait opérer du dos. Aujourd'hui, il ne peut toujours pas jouer de batterie, mais Phil Collins est debout. Je trouve que ma musique a bien vieilli, juge-t-il. Merci à tous les fans qui m'ont soutenu contre vents et mariés, conclut Phil Collins. Not Dead Yet, son autobiographie, sort jeudi chez Michel Lafon. Une triple compilation de singles est déjà disponible. Des tubes qu'il chantera donc à Paris-Bercy en juin prochain, mise en vente des places vendredi.
Et cet entretien exclusif était signé Steven Bellery. On est content de l'entendre, hein. Ça fait plaisir, exactement. Allez, dans un instant, on se retrouve avec vous, Anthony Martin, pour parler eh bien, de notre Grand Prix RTL du meilleur disque de l'année.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
9h11, bonne journée à tous. Alors Anthony, c'est donc un rituel depuis maintenant 10 ans sur RTL. Oui. On invite nos auditeurs à voter pour lire l'album RTL de l'année.
Ah. Oui, qui sera le 11e lauréat du prix créé en 2006? À vous de jouer, il suffit d'aller sur notre site rtl.fr, sur la page dédiée à l'album RTL de l'année, opération en partenariat avec l'émission de TF1 50 Minutes Inside. Alors depuis ce matin et jusqu'au 1er novembre, vous pouvez voter pour votre album préféré parmi les 12 sélectionnés. Ces albums sont tous signés d'artistes français ou francophones et ils sont sortis sorti entre octobre 2015 et août 2016.
Allez, nous allons les dévoiler par ordre chronologique de sortie, Anthony.
On y va, en voilà 7 sorties entre octobre 2015 et avril 2016.
Imaginez un champ d'herbe rouge.
Stylus de William Scheller.
Au bord d'un étang.
Zanaka de Jane.
De l'amour
de Johnny Hallyday. Des ombres et des lumières du duo Frérot de la Vega. La beauté du geste de Gérald de Palmas.
À grands coups de latte.
Alors je t'ai approché.
C'est Renaud, signé Renaud.
Et j'ai embrassé un fils.
Le jour se lève enfin.
Et Palermo Hollywood de Benjamin Biolay.
Alors ça fait déjà une belle brochette, on va maintenant découvrir les 5 suivants.
Toujours par ordre de sortie, entre mai et août 2016.
Il est où le bonheur, il est où ?
La Trappe Rêve de Christophe Maé.
Il est où ? Paname, Paname, on arrive.
À bout de rêve de Slimane.
Et mon sac à dos.
Si je m'endorme,
l'album de Claudio Capeo qui porte son nom.
Encore un soir.
Elle l'a dit, encore un soir de Céline Dion. The Wrong Kind of War, d'Imani. Voilà donc les 12 disques dans la course à l'album RTL 2016.
Ce sont donc les 12 disques en compétition, vous l'avez compris. Tout le monde peut voter, ce jusqu'au 1er novembre, et nous révélerons le nom du lauréat, ici même, début décembre. Merci beaucoup Anthony.
Et bon vote.
Bon vote. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré la romancière américaine Joyce Maynard. Elle est fascinante, semble-t-il.
Oui, à double titre, Joyce Maynard, parce qu'elle est non seulement l'une des meilleures romancières outre-Atlantique, mais aussi parce qu'à l'âge de 18 ans, elle a vécu une brève et intense passion amoureuse avec l'écrivain le plus mystérieux de la seconde moitié du XXe siècle, Salinger. Et oui, l'auteur de L'Attrape-cœur, il avait 35 ans de plus qu'elle à l'époque, en 1972. Salinger mettra brutalement fin à leur liaison au bout d'un an. Une expérience fondamentale que Joyce Maynard a d'ailleurs raconté dans un livre intitulé « Et devant moi, le monde ».
Alors déjà là, c'est assez particulier. Et aujourd'hui, Joyce Maynard publie « Les règles d'usage ». C'est un roman inspiré des attentats du 11 septembre 2001.
Et elle réalise, Joyce Maynard, la prouesse d'écrire une histoire bouleversante, réconfortante et lumineuse sur la plus grande tragédie vécue sur son sol par l'Amérique.
J'étais à New York pour visiter mon fils le jour du 11 septembre. Mmh. Toujours, mes romans viennent de mes expériences les plus fortes. J'avais la nécessité de faire une histoire qui contienne mes émotions. Mais on ne peut pas raconter l'histoire de 3000 personnes mortes. Alors, j'ai rencontré l'histoire d'une jeune fille pour examiner la grande tragédie.
Alors cette jeune fille, c'est Wendy, Bernard.
13 ans, sa mère disparaît dans les décombres du World Trade Center. Joyce Maynard a toujours excellé à mettre en scène des adolescents. Les attentats du 11 septembre déclenchent un séisme intérieur chez la jeune Wendy. Elle quitte New York, son beau-père et son petit frère pour rejoindre en Californie son père biologique, un original au tempérament bohème. Et ils vont apprendre à grandir ensemble.
En tant que parent, en tout cas, moi j'ai l'impression que mes enfants m'ont autant appris que je leur ai appris. Ils m'ont révélé des choses qu'il m'aurait été impossible de découvrir autrement. Et c'est vrai que le père de Wendy arrive dans sa vie au moment où elle a cette perte tragique et il ne sait pas, il ne sait absolument pas comment être un père et elle lui apprend. Et je crois que c'est toujours comme ça qu'on peut survivre à la tragédie, à la perte, non pas en se repliant sur soi, mais en allant vers les autres.
Et Joyce Maynard signe un livre sensible sur le deuil, mais plus encore sur la renaissance, le passage à l'âge adulte, la famille, un formidable message d'espoir, envoyé aussi à la France, qu'elle aime tant, cruellement frappée à son tour par le terrorisme.
The message that I hope is that
terrible losses can occur. Malgré les tragédies terribles que l'on peut connaître, ils font continuer à aimer la vie, à aimer le monde. Je l'ai vécu moi-même plusieurs fois, et en particulier cette dernière fois en revenant à Paris, où je suis allée cinq fois avec mon mari qui est mort cet été, où nous avons été les plus heureux du monde, où nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, et je reviens sans lui aujourd'hui. Je reviens sans lui et je me dis, profite de Paris, parce que voilà, il faut continuer à vivre et on a plus de cicatrices, mais peut-être qu'on est plus courageux aussi une fois qu'on a surmonté ces épreuves, et en tout cas, on a plus de compassion pour les autres.
Voilà, la formidable Joyce Maynard qui publie Les règles d'usage aux éditions Philippe Ray. Un hymne, vous l'avez compris, à la vie et à l'amour. À lire sans faute, que vous soyez en vacances ou pas, dès demain. C'est ça, c'est demain. Hein. Les vacances, ça démarre demain. Oui, l'entretien complet de Joyce Maynard, avec notamment ses confidences sur sa vie avec Salinger. Et ça, je sens que ça vous intéresse.
Ah oui,
quelle vie. Eh bien, l'auteur de la Trappe-Cœur, cet entretien est à retrouver sur RTL.fr.
Les règles d'usage, c'est d'ores et déjà un très bon titre. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer nos audiences télévisées et notre soirée avec Isabelle Morini-Bosque. A tout de suite, merci d'écouter RTL.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Chère Isabelle Morini-Bosque, nous allons commencer bien entendu avec les résultats d'audience de notre soirée d'hier avec nos amis de Médiamétrie. Puis après je vais retrouver votre petite feuille.
Eh bien écoutez, la traite, si j'ose dire, ça marche toujours puisque L'amour est dans le pré est largement en tête. 4 610 000 téléspectateurs devant Esprit criminel, 4 530 000 et Castle en troisième position. 3 800 000 personnes, soit 15% du public sur France 2. Et la majorité des ménagères est évidemment sur M6. La déception, c'est pour France 3. L'opération Élysée n'attire l'attention que de 1 085 000 personnes, moins de 5% du public sur France 3. Et alors, et ben côté TNT, c'est Thor, le monde des ténèbres, W9, qui est largement en tête. 1 050 000 téléspectateurs sur W9.
Thor, c'est celui qui a son gros marteau, là.
Oui, c'est celui qui a son gros marteau.
Pas l'embêter. Alors, on va se projeter dans notre soirée, avec bien entendu nos programmes télévisés. Beaucoup de thématiques, m'avez-vous dit, ce soir à la télé. D'abord, en access, comme on dit.
Oui, comme vous dites, sont quasiment face à face ce soir. Deux bons programmes sur le monde de la cuisine. D'abord à 18h15 sur Arte, à pleines dents, saison 2. On retrouve Gérard Depardieu, en forme au pluriel, un bouffeur du kilomètre et de bons plats, accompagné de son copain cuisinier. Il garde toujours le même crédit, le même credo.
Je suis Gérard Depardieu. Je suis citoyen du monde et je suis vivant. J'aime manger, rire et m'émouvoir. J'ai rencontré le chef Laurent Audiot il y a 20 ans. Nous sommes devenus amis et depuis, nous partageons nos découvertes culinaires. La simplicité des produits, le contact humain et les territoires à explorer.
Voilà, on ne sait pas pourquoi il y a de la musique, mais l'émission est très bien. L'autre quotidien.
C'est une super émission.
Ah, c'est formidable. On a juste envie un tout petit peu de le mettre à la diète, mais l'émission est formidable. L'autre quotidienne qui permet à la télé de nous cuisiner, c'est Objectif Top Chef à 18h35 sur M6. L'émission permet à Philippe Etchebest de trouver le meilleur apprenti cuistot de France à l'issue d'un tour de France également. Philippe Etchebest est un vrai toquet, si j'ose dire, qui vient au secours également de restaurateurs en détresse. Et beaucoup l'accusent d'en rajouter côté cri pour la télé.
J'ai des caméras, déjà, je les oublie. Ceux qui pensent que je joue, que j'en fais trop, ou que, enfin, je sais pas, mais je m'en fous, mais ils imaginent même pas comment. Ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir des résultats dans ce qu'on me demande. Parce que quelque part, j'ai une mission d'aider des gens en difficulté. Je répète, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là. Les autres, ce qu'ils en pensent, je m'en tape. La transmission, c'est mon métier. C'est de la télé, peut-être. Que ce soit Cauchemar en cuisine ou Objectif Top Chef, c'est un vrai travail. Ça demande une énergie considérable. Cauchemar en cuisine, j'en fais pas beaucoup dans l'année. J'en fais 8, pas plus. C'est un travail humain, c'est beaucoup de psychologie. Alors oui, mais gueulante, ça fait parler. Je sais moi pourquoi je le fais. Et ceux qui ne le comprennent pas, tant pis pour eux.
Voilà,
ceux qui
comme
le comprennent adorent ça,
dit,
j'en fais partie.
Et ça marche toujours très très bien.
Alors on note Blind Spot sur TF1, puis Cache Investigation sur France 2. Mais votre attention a été attirée par une autre thématique sur deux autres chaînes.
Oui, médical cette fois, et là on n'est pas dans notre assiette. Dans la première, sur France 5, Michel Simès dénonce l'abus de consommation d'antibiotiques. On connaît le problème, la première conséquence c'est que les bactéries sont devenues super résistantes à ces antibiotiques. D'où 12 500 décès directement liés à ces super bactéries shootées aux pilules, potentiellement responsable en 2050 de 10 millions de décès dans le monde. C'est passionnant, mais j'avoue avoir été encore plus bluffé par justement un bluff mondial dénoncé à 20h55 sur Arte, la diabolisation du cholestérol, un lipide rendu alors parfaitement à tort responsable de toutes les maladies cardiovasculaires. Tout est parti dans les années 50 d'une théorie totalement fausse du chercheur Ansel Keys, à l'origine d'un gigantesque marché, lui, très juteux, très gros. Tous les spécialistes sont aujourd'hui d'accord. J'ai été sidéré. Écoutons-les.
En fait, il a illustré une maxime de Churchill qui disait « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai falsifiées moi-même ». Eh bien, en effet, Ansel Keys, il a un peu falsifié ses statistiques, c'est-à-dire qu'il a sélectionné les résultats qui alimentent son hypothèse. C'est de la très mauvaise science. En Europe, on était en train de se reconstruire l'Europe. Elle n'en était pas à penser à son cholestérol à l'époque, mais bien sûr, la science progressait et donc on commençait à s'intéresser aux facteurs de risque cardiovasculaire. On avait trouvé du cholestérol dans les artères, on avait trouvé aussi du calcaire, hein, dans une cafetière encrassée, mais pour autant, on ne se disait pas qu'on allait boire de l'eau sans calcaire. Mais bon, le cholestérol, c'était la bonne chair, c'était le coupable idéal.
Quand le président Eisenhower a eu sa crise cardiaque, Keys est arrivé sur le devant de la scène, l'a immédiatement mis au régime sans gras et a déclaré que c'était son alimentation qui avait causé sa crise cardiaque et pas du tout le fait qu'il fumait comme une cheminée.
Voilà. 20h55 sur Arte. Honnêtement, j'ai rarement vu une émission aussi radicale dans le bon sens du terme et aussi étayée. Ça m'a vraiment passionné.
À regarder avec une bonne tartine de beurre.
À regarder, quasiment.
Parce que le cholestérol, ça existe quand même un petit peu. Enfin bon,
et les labos en ont fait leur chou gras. Oui, bien sûr qu'il existe.
Ah oui, on est d'accord.
Mais il n'est pas à condamner comme ça l'a été depuis les années 50.
De tout un peu, nous disent les médecins sérieux.
Voilà.
Voilà. Dans un instant, on se retrouve pour se dire au revoir, hélas. On est content de le retrouver, notre Phil. Voilà, il va nous accompagner pendant toute la matinée sur RTL. N'oubliez pas de participer à la désignation de notre album de l'année. Il suffit pour ça de retourner sur le site rtl.fr. Vous retrouverez tous les disques. On attend que vous votiez en masse. Le sourire d'Anthony Martin me le confirme.
Et Phil Collins n'est pas candidat. Hein,
non, Phil Collins n'est pas candidat. Vous avez raison de mettre un petit peu d'ordre. Et je ne crois pas qu'il soit francophone.
Il parle un peu français, il a habité en Suisse.
Avec vous, évidemment. C'est parce qu'il vous fait des confidences tout à fait particulières. Il est 9h30, on va dire bonjour à Julien Courbet.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Et qui est votre album préféré alors vous, Monsieur Calvi ?
Je pense que... Non, j'ai beaucoup de choses que j'aime bien. Je crois que le Renault cette année, ça a été...
C'est le Renault qui va gagner pour vous.
De mon point de vue, oui.
Avec les 2000 emplois à créer, en plus, je pense que les gens, honnêtement, devraient voter pour lui. Merci beaucoup à tous.
Bonne journée.
Ciao, ciao.